bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast sur le dating moderne. On est...
Détestables.
Yay. C'est l'été, on est tout un peu plus bronzés. Et les pauvres âmes en perdition reprennent le dating avec le beau temps dehors. Donc aujourd'hui, on va discuter des premiers contacts et les premiers pas dans une relation. Qui doit faire le premier pas à chaque étape? Qui doit faire le dernier pas? Celui du break-up. Et aujourd'hui, je suis super bien entourée. J'ai à mes côtés Lilou.
Hello.
Lilou, est-ce que tu peux nous rappeler ton statut matrimonial?
Oui, alors Lilou, 31 ans. Et donc moi je suis en relation initiée sur Tinder depuis 5 ans. Merci Tinder.
On est très 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 contente d'accueillir Mathilde.
Moi c'est Matou, j'ai 31 ans aussi et je suis mariée en couple depuis presque 14 ans.
Notre modèle. Et puis Elzou.
Salut, moi c'est Elzou, j'ai 32 ans, très très bientôt 33. Je suis en couple depuis maintenant 6 mois avec un très bel homme que j'ai rencontré via un groupe social.
Bienvenue les filles, moi c'est 30...
moi c'est
31
ans. Moi c'est 31 ans.
Moi c'est Pizou, j'ai 31 ans et je suis très célibataire. Pour moi le dating c'est toujours comme fouiller dans les poubelles. Elzou, tu vas passer au grill en premier. Tu as plein de beaux projets de couple avec ton partenaire.
Voilà.
Notamment la concrétisation, l'officialisation ultime de votre vie à deux. Vous vous êtes mis d'accord pour vous marier?
Clairement, on en a discuté. Maintenant, on n'a pas encore établi quand on va le faire. Là, on vient tout juste d'acheter une maison ensemble. Alors que c'est sûr que c'est un gros projet de vie. Je pense qu'on est un peu rendu au même stade dans nos vies. Puis on a un peu la même vision du couple en ce moment. Et c'est pour ça que je pense qu'on a franchi le pas d'acheter une maison ensemble. Et je pense que l'officialisation s'en vient bientôt.
Est-ce que tu attends une demande?
Ben, c'est sûr que l'effet surprise, c'est toujours cool. Je sais pas si ça va se passer, comment ça va se passer, quand ça va se passer. J'en ai aucune idée.
Et comme on parle de qui doit faire le premier pas, est-ce que tu as pensé à faire la demande?
Non, j'ai pas pensé moi-même faire la demande.
Alors que tu es quelqu'un quand même qui de façon générale
réputé pour faire les premiers
réputé pour ses premiers pas.
C'est vrai, je suis vraiment une fille qui prend beaucoup l'initiative. Mais d'ailleurs, c'est moi qui a initié à ce que Roy et moi, après notre première rencontre dans le groupe social, à ce qu'on aille notre première date, parce que c'est moi qui lui ai écrit. C'était moi la première qui a initié notre premier date, mais je sais pas, c'est un peu, je trouve ça un peu bizarre, la fille d'offrir une bague, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez.
Mais moi je suis d'accord avec toi, parce que moi aussi j'ai déjà fait le premier pas plusieurs fois, genre dans les relations que j'ai eues, et que ce soit pour faire avancer la relation, ou genre relancer quelqu'un après une première rencontre. Mais j'avoue que pour la demande en mariage, je sais pas pourquoi. J'ai encore en tête le fait que ça devrait être le garçon. Alors que, tu sais, d'un point de vue rationnel, ça me paraîtrait tout à fait normal que ce soit une fille qui fasse la demande en mariage aussi. Et donc, je me pose la question à moi-même. Genre, je fais un peu ma propre psychanalyse. J'essaie de comprendre pourquoi est-ce que ce pas-là, est-ce qu'on s'attend encore que ce soit l'homme qui le fasse?
Mais je pense que le mariage en soi, c'est tellement... On est tellement habitué à avoir une certaine image de à quoi ça doit ressembler. Et même quand on essaie de faire un mariage où il y a des choses que nous, on trouve uniques et qui sont à notre image, in fine, le mariage, dans son déroulement, est toujours... suit toujours une trame relativement traditionnelle. Genre, c'est pas la fille qui attend l'homme qui traverse l'allée devant tous les...
C'est
la fille qui porte une robe, l'homme ne porte pas quelque chose de particulièrement flamboyant. Tu sais, il y a plein de choses dans le mariage que je trouve qu'on a tellement intériorisé, des images qui nous ont marqué toutes nos vies, que contre nous, on aimerait reproduire, finalement. Mm-hmm. Ça nous rend heureux de les reproduire. Je pense que ça nous rendrait moins heureux de pas les reproduire, ce qui fait que je pense que la demande en mariage fait partie de tout ce processus comme le mariage, c'est de la demande jusqu'à la fin de ta soirée, fait partie de tout le processus où, mine de rien, en fait, nos attentes sont conformes à quelque chose qu'on a l'habitude de voir depuis qu'on est enfant, que la société autour de nous a l'habitude de voir. Du coup, c'est difficile de dévier de ça. Et je pense même pour les hommes, c'est difficile de dévier de ça, parce que même si t'es une fille qui voudrait faire sa demande, parce que toi, t'as très envie de te marier, et tu penses que c'est le bon moment et tout, ce sera pas forcément accepté par ton conjoint que ce soit toi qui fasses une demande en mariage aussi officielle que celle à laquelle on s'attend de la part d'un homme quand on est une femme, je trouve. Je suis pas sûre que les gars, enfin, que beaucoup de gars...
Honnêtement, ça aurait été intéressant, en fait, d'avoir certains hommes, gars autour de nous aujourd'hui pour savoir c'est quoi leur opinion par rapport à ça.
Parce que je pense que, enfin, dans les couples qu'on connaît, il y a des gens qui ont décidé de se marier, qui n'ont pas fait de grosses demandes, et ça a été plutôt
une
conversation conjointe. Là, ils étaient prêts, puis ils n'ont pas eu besoin de faire... Enfin, ils se sentaient pas obligés de faire quelque chose de très officiel, ou une surprise, ou quoi que ce soit. Mais j'ai jamais entendu parler d'une fille qui faisait une grosse demande. Même pas forcément parce que les filles n'en ont pas envie, juste parce que je suis pas non plus certaine que les conjoints soient très réceptifs eux-mêmes. Parce que
c'est hyper vrai que nos attentes correspondent en fait à ce qu'on voit tout le temps. Moi, je m'étais demandé, est-ce que c'est pas... c'est vrai que c'est accepté, enfin, c'est largement plus répandu que ce soit l'homme qui fasse la demande, mais est-ce que c'est pas leur donner trop de pouvoir sur une relation?
Tout à fait. Mais tout ce processus-là est super étrange, le fait de... Toi, tu portes une bague, le conjoint ne porte pas une bague pendant le temps où vous êtes fiancés. Donc toi, t'as un symbole qui fait que tu es engagé officiellement avec quelqu'un. L'homme ne porte pas de symbole qu'il est engagé officiellement avec quelqu'un jusqu'au mariage. Il y a plein de choses qui sont assez... En même temps, bon, c'est historique, je pense qu'il y a pas mal de choses derrière aussi, qui c'est une garantie pour la femme si jamais elle se fait abandonner, qu'elle a comme un petit pécule à
c'est
son
vrai.
Droit.
Puis le mariage, ça reste une institution religieuse, je pense, donc c'est plus l'homme qui est comme garant de ta sécurité, des finances et tout, donc c'est lui qui doit faire ce pas-là, en tout cas, historiquement.
Mais j'ai vu des histoires de femmes qui faisaient le deuxième pas dans la demande de fiançailles, que je trouvais absolument adorable de se faire demander en mariage, et après, toi tu demandes ton conjoint en mariage, tu lui fais aussi une surprise après qu'il t'ait demandé, tu lui fais un cadeau, genre j'ai vu des filles qui offraient un portrait de eux à leur conjoint dans un endroit qu'ils aimaient tous les deux et qui lui faisaient une demande en retour, ce genre de choses, que je crois qu'il était très chouette aussi.
C'est hyper
cool. Et en même temps, ça reste dans l'ordre des choses, enfin dans l'ordre des choses, dans ce à quoi on s'attend, que c'est le garçon qui a fait la demande en premier, mais en même temps, la fille comme se remet sur un pied d'égalité en quelque sorte, en lui disant bah, regarde, moi aussi je vais te demander si toi t'es prêt et tout.
Ça fait comme une réciprocité.
Tout à fait.
Puis ça permet de souligner le fait que c'est intentionnel pour toi aussi, que tu es pas juste en réception de la demande,
ou que tu t'es pas senti obligée non plus de dire oui.
Exact. C'est mignon comme idée.
C'est mignon, ça me fait penser dans la saison 1 de Love is Blind, je sais pas si vous souvenez de Gianina, la Latina, qui n'a pas répondu à la demande d'un mariage du gars qu'elle a rencontré dans les pods, et elle a juste dit je te coupe tout de suite, moi je suis ton égale, machin. Alors elle se met à genoux et elle lui dit, moi je te demande à toi.
Elle a fait une contre-demande en mariage, en fait.
Une contre-offre. Et bon, c'était drôle comme moment, mais le gars avait pas l'air d'être surpris ou quoi que ce soit, il était juste content que ce soit...
Et là, ils se sont dit oui, plus ou moins en même temps.
Voilà. Bon, on peut retourner un petit peu plus tôt dans les relations, vers le tout début. Les premiers contacts, donc première rencontre, ça peut être virtuel ou en personne. D'après vous, après un match, qui est-ce qui devrait parler en premier?
Selon mon opinion, enfin, j'ai autant la fille que le gars... devrait se lancer en premier. Je pense qu'il n'y a pas de règle.
Et en fait, il y avait même... je ne sais pas si Fizou, tu voulais en parler après, mais quand on recherchait un petit peu sur le sujet, on remarquait qu'il y avait des études qui montraient que les femmes qui faisaient le premier pas avaient tendance à se retrouver avec genre, des meilleurs catchs. Parce que, en fait, ce n'est pas quelque chose qui s'applique seulement au dating, mais même... quand on applique pour des postes ou d'autres situations de la vie, quand tu es la personne qui initie, souvent tu vas être la personne qui ressort avec le meilleur outcome, parce que tu vas être la personne qui va viser le plus haut, disons, que peut-être tu pourrais espérer. Donc les filles qui font le premier pas, avait tendance à se retrouver avec
des hommes de meilleure qualité.
Des hommes de meilleure qualité que celle qui attendait de recevoir le premier pas, parce que les gars avaient tendance à toujours aller plutôt vers des filles
plus attirantes, en fait. En fait, je pense que c'était OkCupid qui avait fait cette recherche. Et en gros, les gars comme les filles vont toujours viser un peu mieux qu'eux, entre guillemets, en termes d'attirance ou peu importe. Par contre, les femmes reçoivent beaucoup plus de réponses parce que les gars répondent à peu près n'importe qui, alors que les femmes non. Et donc, ça faisait que les femmes pouvaient pêcher des plus gros poissons.
Ouais. si elles essayaient, elles pouvaient avoir...
Ouais, alors que si elles étaient dans l'attente, elles se retrouvaient finalement avec des gars de moindre qualité. Donc, on peut augmenter nos standards si jamais on est prête à faire le premier pas.
Ça coûte pas tant que ça, surtout à l'époque des rencontres par internet où, in fine, le premier pas, c'est en ligne. Le pire qui puisse arriver, c'est que la personne ne répond juste pas à ton message.
C'est vrai.
C'est vrai que ça vaut la peine de...
En fait, il y a même beaucoup de gars, justement parce que eux, ils ont tendance à swiper right plus systématiquement que les filles, qui espèrent que la fille fasse le premier pas parce qu'ils sont tellement... je pense, insécure de l'intérêt réciproque des filles, parce que eux sont très ouverts, selon leurs témoignages, les gars, sur les applications. Ils ont tendance à plus facilement swiper right. Et donc, en recevant un message de la fille, ça leur confirme qu'effectivement, ils peuvent y aller. Donc, je pense qu'il y a une majorité de gars, quand même, qui se sentent mieux quand c'est la fille qui fait le premier pas.
C'est vrai. En plus, virtuellement, c'est quand même facile. Genre, même si la personne te répond pas, tu le prends pas comme un vent. Genre, tu te sens pas humilié ou quoi. C'est juste, ok, elle a pas répondu. Fine.
C'est pas un rejet en public ou...
Exact.
Ouais, ça baisse la barrière à l'entrée du premier pas.
Ça vaut plus la peine de le faire encore plus dans ces cas-là. Le risque versus la récompense, c'est rassurant et intéressant.
Et de toute façon, sur Bumble, t'es obligée. C'est forcément la fille qui est...
qui initie la conversation.
Qui fait le premier pas.
Est-ce que vous avez des pick-up lines?
Sur Bumble?
Ouais. Moi, je dis salut, ça va. C'est nul. C'est plate, mais genre...
Genre, si ça avait été un mec qui t'avait écrit salut, ça va, tu l'aurais jamais répondu.
C'est vrai que la barre est tellement basse pour nous que comme on peut s'en sortir
avec... Mais en fait, moi, dans mes souvenirs, c'est... La majorité des conversations que j'ai eues sur les applications d'encontre, c'était ça. Et t'as pas envie, en fait, de continuer la conversation, enfin...
Quand on te dit salut, ça va.
Ouais,
mais moi, j'ai pas envie. Quand on me répond, oui. Je suis comme, moi aussi, ouais. Merci de demander.
Oh, j'avoue. Les gens qui demandent pas ça va en retour, ça me
laisse pas aussi. Là, genre, je sais déjà que la conversation...
Ça va pas mener à grand chose, en
genre,
fait.
J'ai commencé par quelque chose de très plate pour te donner l'occasion de briller. Et toi, tu m'as répondu.
Et en plus, honnêtement, je sais pas, dans mon esprit, c'est toujours mieux que... les gens qui essayent trop fort de faire des accroches de fou pour attirer ton attention et tout, là au moins tu laisses la place, comme tu dis, l'option à l'autre de développer et pas de devoir rebondir avec un humour exagéré lui aussi.
J'ai un collègue, salut collègue, il va nous écouter, qui dit je pense que ça y est, je peux désinstaller Hinge, quelque chose comme ça, genre un peu... Petite pick-up line en mode « Oh yes, I found the one, je peux désinstaller. »
Mais le truc avec les pick-up lines qui sont genre trop bonnes, entre guillemets, c'est que genre ça se voit que c'est « practiced » et genre que tu sers la même salade à tout le monde.
C'est sur les applications, tu sais qu'ils envoient la même chose à tout le monde. Pourquoi est-ce que... Enfin, de toute manière, tu te sens pas spéciale quand on t'envoie une pick-up line, donc autant rester simple.
C'est vrai.
Mais donc, si tu es dans une situation où tu rencontres quelqu'un genre « in real life », est-ce que toi, tu serais prête à faire le premier pas ou est-ce que tu préfères que ce soit l'autre qui fasse le premier pas?
Parce que ouais, c'est vrai que c'est pas la même dynamique.
Exactement. Je serais curieuse.
C'est pas du tout la même game. Honnêtement, non, je me vois pas du tout faire le premier pas dans la vraie vie.
Je pense que ça doit être moins courant quand même dans la vraie vie que sur les applications. Je pense que sur les applications de rencontre, ça doit être pas mal 50-50, genre la fille ou le gars qui fait le premier pas. Par contre... J'imaginerais que en réalité, ce soit un petit peu plus...
Ouais, c'est plus difficile. Si tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, et qui a un intérêt, tu vas peut-être le voir ou le sentir. Tu peux donner des hints. Tu peux être particulièrement souriante, peu importe. Mmh. Genre, montrer que comme... Ok,
tu
genre...
Tu serais réceptive.
Voilà. Mais aller parler à la personne ou quelque chose, non. Je ne serais pas capable. Pourtant, on est au Québec. Et au Québec, c'est pas mal vu, c'est courant.
Oui, les garçons,
de Québec, c'est...
Donc on devrait être un peu plus décomplexés, mais franchement, c'est...
Mais comme Elsa, ceci dit, si tu te retrouves dans un contexte où tu rencontres quelqu'un dans une situation sociale, est-ce que après toi tu l'écrirais
bah,
pour
c'est
faire
toi
le follow-up?
C'est ça que tu as fait.
Exactement. En fait, quand dans le contexte où on s'est rencontrés, ben il y avait plein d'autres gens. Puis déjà lui, je le sens, tu sais, il est plutôt un petit peu réservé à la première abord. Et puis de toute façon, cette rencontre, c'est très amical, là. C'était pour rencontrer des nouvelles personnes. Mais c'est sûr que, tu sais, il m'a plu. C'est moi qui ai après initié de lui écrire en privé pour savoir si est-ce qu'il était seulement intéressé vers de rencontrer juste amical ou il était aussi intéressé par le dating.
Oh, wow.
C'est comme ça en fait que je l'ai abordé.
Ce qui est assez direct.
Oui,
quand
exactement.
Même. C'est plus que genre.
Mais je pense que c'est bon style.
Mais oui.
C'est pas de perdre de temps aussi versus je lui dire est-ce que tu veux
prendre un
se
café
revoir,
et
alors mais, genre trois salades après.
J'aurais été très ouvert en fait d'être aussi juste amie. Mais en même temps moi je. Un de mes buts à aller dans ce groupe social, c'était ultimement de rencontrer quelqu'un pour une relation amoureuse. Mais voilà, c'est pour ça, je pense que j'y suis allée un peu plus direct. Et voilà, lui, il m'a répondu que oui, il était intéressé par une date. Alors, c'est comme ça que ça commence.
C'est très cute. Ouais. Et je me rappelle aussi quand on était tous en voyage pour le mariage de notre amie l'année dernière... tu nous avais aussi fait une belle démonstration de premier pas avec un des groomsmen du mari.
On a demandé s'il était célibataire.
Je pense qu'il nous avait proposé de nous prendre en photo parce qu'on était tout un groupe. Et toi, tu lui as dit oui, merci. Est-ce que tu as une copine? C'était une belle démo de comment le faire in real life.
Je veux dire, des exemples. Pas rien.
Absolument.
Et la vie
rien. Ok, il va dire qu'il a une copine.
Honnêtement, dans ce cas-là, on a gagné des amis.
Mais moi, honnêtement, mon conseil pour toutes les filles, les femmes qui recherchent un homme ou une femme, ou peu importe leur orientation, ben, c'est de pas être gêné, je pense. Il faut avoir un petit peu d'initiative parce que si on a zéro initiative, c'est encore plus dur, je pense, selon moi, de trouver quelqu'un.
Oui, puis il y a des hommes timides out there.
Ouais, c'est pas forcément. Ben, Roy, il est aussi quand même timide à la première abord.
C'est vrai que c'est des questions de personnalité aussi. Si aussi tu sais que tu t'entends bien avec des gens qui sont assez introvertis, il faut être OK avec le fait de faire le premier pas.
Un autre avantage de faire le premier pas, homme comme femme, c'est de faire bonne première impression. Mmh. Et j'avais lu un article qui dit que, en gros, les interactions initiales peuvent prédire l'avenir d'une relation si tu fais une super bonne première impression.
Mmh.
Et que, par exemple, si t'es une femme et que tu te fais aborder par un homme qui vraiment te paraît hyper compatible avec toi, genre qui fait vraiment une bonne première impression, vous avez une cool première conversation, même s'il est pas ton type ou même s'il est pas dans tes critères, ben, en fait, tu vas lui donner une chance et vous avez plus de chances d'être en relation longtemps. En gros, ça va comme plus loin que l'attirance, le fait d'avoir vraiment bien initié, bien commencé une première conversation. Mais tu peux aussi faire très mauvaise impression.
J'avoue. C'est clair. Ouais.
Mais c'est vrai, c'est intéressant cette histoire de la première impression. Tu sais, ça me fait penser au fait que quand on apprécie une personne sur le coup, même si après elle se révèle être différente de l'impression qu'on avait eue, il y a toujours une part de nous qui espère qu'à un moment donné... cette personne qu'on avait rencontrée la première fois et avec qui ça avait cliqué se révèle de nouveau.
Oui.
Et j'ai l'impression que du coup t'es un peu plus résilient dans tes relations quand vraiment, comme tu dis, la première impression était super, parce que même si après t'as des petites déceptions, t'es prête un petit peu plus à passer au-dessus juste parce que tu te dis il y a une chance qu'en fait on revienne à ce premier date puis ou cette première rencontre.
T'as des relations qui commencent super bien pendant genre quelques temps, la personne est parfaite. Puis après, ça se détériore, mais t'es comme, oh, mais c'était tellement bien au début, genre.
Oui, exactement.
J'espère retrouver ça.
C'est gentil, ouais.
Comme dans les livres qu'on a lu.
Oui, ça, j'ai exactement
mais
pensé à ça.
Mais stay tuned for the next episode.
J'ai pensé à ça aussi.
C'est hyper vrai, mais moi, j'ai été dans une relation qui a été bien pendant 6 mois, et après, c'était très nul, et genre, pendant 1 an et demi, je me disais, oh, mais pourtant, c'était si bien pendant 6 mois,
ouais,
genre.
Alors c'est tellement vrai.
18 mois plus tard, c'est comme vraiment nul. Mais ouais, c'est vrai que par contre, faut rester un peu lucide malgré la première impression de vraiment genre jauger comment on se sent à l'instant T et pas comment on s'est senti
Surtout qu'il y a des gens qui savent tellement bien se vendre.
Mm-hmm.
C'est parce vrai, qu'ils ça. Ont tellement... Il y a des gens, ils sont... Enfin, tu sais, c'est une force de savoir percevoir quelles sont les attentes des gens ouais. avec qui tu es. Enfin, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, il y a des gens qui ont ce don-là de deviner qu'est-ce que cette personne-là, elle aime, comment tu dois te comporter autour pour la séduire et tout. Et en fait, qui savent cocher toutes les cases juste parce qu'ils ont cette...
Sont bons à réseauter.
Ouais, exactement, en fait, ce feeling de réseautage, qu'ils sont capables de savoir exactement qu'est-ce qui va plaire à la personne. Ouais. Puis, en fait, c'est pas du tout leur personnalité, mais ils se vendent tellement bien. C'est comme une entrevue, en fait. C'est parfois, tu dis à peu près n'importe quoi, mais t'es tellement sympathique que ça passe.
Exact, ça arrive, des erreurs de casting.
Ah, c'est clair.
Un autre truc, il y avait la première impression, quand elle était bonne, c'était genre un bon signe pour la suite. Et si jamais tu trouves un intérêt niche avec quelqu'un, un intérêt commun, hyper spécifique, ah, du style, ouais. Je sais pas, genre, vous aimez tous les deux boire du coca dans des verres de champagne, genre, ça peut...
Waouh, wow, ça c'est vraiment spécifique.
Ça, c'est très spécifique. Est-ce que tu parles d'expérience?
Non.
Mais comme... Mais est-ce que c'est ce que tu recherches?
C'est exactement ce que je recherche, c'est pour ça que j'ai du mal.
Donc, appel, candidature.
Si vous aimez boire votre coca dans des verres de champagne.
Première impression, cool. Vous l'avez tout déjà fait, le premier pas? Elles ont oui.
Plus qu'une fois.
Moi, non. Et genre, premier pas dans, genre, ask out ou premier date?
Ouais, oui.
Je pense, dans la vraie vie, certainement pas. J'arrive pas à me souvenir d'un moment où, genre, j'ai proposé un rencard à un garçon rencontré en soirée, comme ça.
Dans un milieu social.
Jamais, jamais. Non, c'est clair. C'est dommage.
Non, premier pas dans la vraie vie, je pense pas non plus. Premier pas, virtuellement, oui. Même dans les apps, parce que je suis pas obligée. Mais demander un date, non. Quand je trouve que la personne, genre, elle se décide pas, je dis, ce serait bien qu'on se voit, mais comme, c'est tout. Et j'attends qu'elle se décide.
Est-ce que tu penses pas aussi que, je sais pas, j'ai l'impression que l'attente qu'on a qu'un gars fasse le premier pas, c'est aussi parce que ça nous révèle une partie de son caractère? On a souvent envie que notre compagnon, il soit go-getter, que genre, justement, t'sais, il sache qui veut, que tu veux, t'sais, qu'il soit sûr de ce qu'il cherche dans la vie, que si c'est toi qui veux, t'sais, il doit aller chercher, etc. Que j'ai l'impression qu'on a aussi tendance à l'attendre, parce que nos critères à nous, des hommes en général, il y a ces cases-là.
Ouais, qui sont entreprenants.
Exactement. Et donc, attendre que l'homme fasse le premier pas, c'est aussi un moyen de vérifier que cette personne-là répond à ces critères-ci.
Ouais, je pense qu'il y a peut-être de ça, c'est sûr. Je pense aussi que ça révèle quelque chose par rapport à nous aussi. En tout cas, exactement. De mon côté, je pense que c'est mes insécurités qui m'auraient empêché de faire le premier pas moi-même, parce que c'est rassurant quand quelqu'un fait le premier pas envers toi. En fait, ça te confirme son intérêt. Et après, tu te sens un peu libérée de continuer dans cette relation.
De faire le deuxième pas ou... Le seul cas où est-ce que je sais pas si c'est vraiment un premier pas, mais si quelqu'un me demande une date et que je peux pas ou que je dois reporter, la fois d'après, je vais demander moi.
C'est toujours que tu as déjà demandé.
Oui, c'est ça, exactement. Je suis déjà rassurée sur le fait que comme
il y a très peu de chances que tu reçoives un non. C'est vrai, comme tu dis, tu te sens plus en sécurité.
Je pense, ouais, c'est lié un peu avec la confiance en soi, mais en même temps aussi lié avec l'attirance qu'on peut avoir envers quelqu'un qui est confiant en lui-même, qui démontre une confiance suffisante pour t'approcher, et comme tu dis, un caractère entreprenant et tout, c'est vrai que c'est attirant.
Mais maintenant que je sais que je peux catch quelque chose,
je sais pas.
Mais après, il y a l'entretien de la relation. Ou est-ce qu'il y a aussi genre d'autres sortes de premiers pas, le premier contact physique, par exemple? Je sais pas qui est le plus entreprenant là-dedans.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une attente de la société qui est que ce soit l'homme pour les filles qui date des hommes qui fasse le premier pas, et que on peut être un peu dans l'attente par rapport au premier pas physique, le premier bisou par exemple. Basé sur mon entourage, j'ai l'impression que les filles femmes ont plus tendance à attendre un premier pas de la part des hommes quand il s'agit du premier baiser. Mais ça aussi, c'est le premier pas, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire, parce que ça devrait être quelque chose qui est explicitement consenti. Donc quand il y a un bisou, normalement, ça veut dire qu'il y a aussi des signaux de la part de l'autre personne qui te démontre que la voie est libre. Et après, donc, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Qui est vraiment celui qui fait le premier pas? Ça devrait presque arriver de façon organique et presque, c'est ça. Alors, au final, il devrait pas vraiment y avoir une personne qui initie ce genre de contact. Mais je sais pas quelle est votre expérience ou votre vision des choses.
Ben là, vous me faites penser, ben juste en parlant encore de ma relation actuelle avec Roy, dans nos débuts, nous, dans le fond, notre première date, ça a été un brunch au resto. Par la suite, vu qu'on s'était déjà parlé, qu'on aimait tous les deux la randonnée, ben, il m'avait dit, t'es le premier, on va aller en randonnée ensemble. Donc, c'est comme lui, ben pour la deuxième date, c'est un peu plus lui qui a pris les initiatives. Puis, tu sais, je veux dire, notre deuxième date, c'était une randonnée hivernale. Puis, tu sais, je me suis dit, il m'a vu genre, comme dans l'effort physique, vraiment le plus naturel.
c'est là que vous avez eu votre premier bisou?
Ouais. Non, c'était pas là. Ah. C'était pas là.
Je pensais que ça allait être le bisou arrivé aussi.
Mais c'était quand même, ouais, c'était une rando ardue, alors c'était peut-être pas le contexte le plus romantique. mais c'est intéressant comme d'être, franchement, ça permet à chacun d'être le plus naturel, okay. Le plus vrai, de montrer la facette, pas se montrer à son plus beau jour, si on veut. Mais après, notre troisième date, si je me rappelle bien, on a été au cinéma. Puis en fait, avant notre troisième date, parce que je trouvais qu'il, justement, il initiait pas trop les rapprochements ou comme les contacts un peu plus physiques. Donc, je me suis pas gênée de lui écrire par message avant notre troisième date, je pense. Comme, ne sois pas gênée de jouer la carte de la séduction.
Bon, c'est bon, ça.
Et donc, après, ben, quand on a été au cinéma, c'est lui qui a pris sa main et qu'il a mis a pris ma main ou qu'il l'a mis sur ma cuisse.
Donc vous avez tous les deux contribué à ce premier pas.
Il a reçu mon message. Ouais.
Tu as explicitement dit la voix est libre.
Ouais. Donc, puis après, après le cinéma, on était un peu restés ensemble, on a discuté de beaucoup de choses intéressantes, c'était très naturel, sincère. Et après, ben, quand il a quitté, on savait que prendre, on allait s'embrasser, mais ça s'est fait pas mal naturellement.
C'est cute. Ouais. C'est une belle histoire. Plus tricky que le premier bisou. Le premier je t'aime. qui dit ça?
Ça, c'est quelque chose. J'ai l'impression, peu importe l'âge que tu as.
C'est plus de pression.
C'est peu importe que tu sois adolescent ou t'es passé la trentaine, c'est toujours plus de questionnements. Qui est-ce qui le dit en premier? Et qu'est-ce que ça implique en termes de... Est-ce que cette personne est plus attachée que l'autre?
Ouais, tu peux faire un bisou à n'importe qui.
C'est vrai.
Tu peux pas
obliger. Exact. Puis aussi, quand tu dis je t'aime à quelqu'un, c'est tu la charges d'un bagage de tes émotions. Et parfois, la personne n'est pas prête à la recevoir.
Il y a des attentes.
Ouais, exact. L'attente de la réponse.
Pour être honnête, je trouve ça quand même très ardu de dire « je t'aime » oralement devant la personne. Mm-hmm. Pour moi, ça a toujours été plus facile de l'exprimer par écrit. Et je pense même chose pour mon partenaire. Mais après, tu sais, le « je t'aime », ça peut, c'est pas juste le fait de dire « je t'aime », ça peut passer par l'affection, l'intimité, le regard, les sourires. C'est aussi ça, je t'aime.
C'est vrai que il y a plein de gestes, même au début d'une relation, qui sont équivalents à dire à la personne que tu l'aimes. Mais j'ai l'impression que le fait de le dire à la personne, c'est tellement fort et ça me semble très important la première fois que tu le dis.
Oui, mais tu te mets dans une position ultra vulnérable.
Oui, tout à fait.
Et le dire oralement, c'est un cap aussi.
Oui,
dans la relation. C'est comme vraiment genre, voilà, je ressens ça et...
C'est étrange, et c'est comme un aveu, c'est vraiment étrange. Ouais, c'est comme... Alors, j'ai l'impression que la première fois que tu le dis, c'est limite. Genre, vraiment, je suis désolée, mais il faut que je te le dise.
Ouais. c'est vrai, c'est comme une confession. Mais en tout cas, moi, dans ma relation, c'est moi qui ai dit je t'aime en premier. Et je me rappelle que je m'étais posé la question quand même pendant longtemps auparavant parce que j'avais pour idée préconçue que c'était le garçon qui disait « je t'aime » en premier. Je sais pas pourquoi exactement, je sais pas si c'est plus souvent les hommes qui font ce genre de déclaration que les femmes dans une relation hétéro, mais... j'avais cette idée préconçue et puis j'en avais parlé à quelques copines qui m'avaient dit que elles aussi ça avait été elles qui ont eu envie de le dire en premier et qu'elles se sont pas trop posées de questions et que j'en juste dit et ça m'avait encouragée à le faire et puis un peu comme une confession parce que c'est comme enlever comme tu l'as dit en fait c'est comme se décharger d'un poids parce que une fois que tu as ce sentiment que tu veux partager tu as trop envie de le dire, donc c'était encourageant de savoir que d'autres personnes ne se sentaient pas obligées d'attendre que ce soit le gars qui le dise en premier, donc j'avais trouvé ça très cool d'en parler.
Il y a l'attente d'une réponse aussi quand tu dis « je t'aime » et c'est tricky si l'autre personne n'est pas rendue là. Donc genre, c'est quoi le meilleur scénario? Est-ce que tu le dis en attendant de te rendre là ou est-ce que tu...
C'est horrible quand tu réponds pas directement, mais en même temps, si tu réponds juste pour faire plaisir, c'est aussi horrible.
C'est horrible aussi, c'est vrai.
Mais en même temps, si la personne te le dit et que tu n'es pas prêt ou prête à le dire, est-ce que ça te fait pas remettre en question de est-ce que tu vas jamais l'être?
Oui, c'est vrai.
Oui, est-ce que ça vaut la peine de patienter encore un petit peu pour voir si toi, tu vas développer des sentiments et tout? Je trouve que, justement, c'est pour ça que la première fois, c'est un peu plus difficile, parce que tu mets aussi beaucoup de pression sur la personne qui le reçoit. S'il n'est pas prêt ou si elle n'est pas prête à te le dire en retour, qu'est-ce que ça veut dire de votre relation? Donc, tu prends un risque, finalement, parfois, en le disant.
Sur Internet, il y avait des réponses, genre, « Oh, si t'es pas rendu là et qu'on te dise « je t'aime », voilà, est-ce que tu pourrais dire ?» Mais je trouvais que c'était quand même pas des bonnes réponses. Genre,
c'était quoi?
C'était... je ressens quelque chose de fort aussi, ou genre, j'ai des émotions aussi, tu sais, genre, ou, en gros, ça disait, ne pas dire merci, c'est un compliment, ne pas, ne rien dire, enfin, genre, répondre quand même quelque chose, dire, en anglais, genre, I'm falling in love, mais comme pas, genre, I love you, genre, mais généralement quand tu dis à quelqu'un que tu l'aimes tu attends une réponse très précise, t'attends pas genre un truc qui tourne autour du pot, tu sais, ça aussi ça peut te faire remettre en question beaucoup de choses.
C'est quand on ne te le dit pas en retour, enfin même bien si sûr. Tu as la maturité de te dire oui c'est normal, on va pas tous à notre rythme, on apprend à se connaître et tout, tu peux pas t'empêcher d'être blessée si c'est que toi t'aimes une personne et qu'elle t'aime pas en retour ou qu'elle t'aime pas encore en retour. Je trouve que ça peut être une situation vraiment épineuse à...
C'est risqué.
À dénouer, c'est... Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal ou que ça... On se pose tous beaucoup de questions de quand est-ce que c'est le bon moment de le dire? Quand est-ce que t'es sûre que tu peux le dire? Et aussi, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui lient beaucoup de choses à ces mots-là et qui, du coup, eux, ont du mal à le dire, pas parce qu'ils t'aiment pas, juste parce qu'ils associent des choses... énorme à dire je t'aime.
Oui.
Enfin, en fait, on n'a pas tous la même définition de je t'aime.
On n'a pas tous la même définition et on n'a pas tous la même facilité. Culturellement, genre, il y a des personnes qui sont moins aptes à le dire juste parce que
ils l'ont moins entendu de leurs parents. Dans leur famille, on se disait pas autant je t'aime.
Exact, exact. Moi, je disais je t'aime de façon libre et décomplexée à mon chat. Mais j'ai toujours eu beaucoup de mal à le dire à des humains. Mais dans ma famille aussi, on se le dit pas, tu vois, genre, on le sait, mais personne le dit.
Donc, évidemment, ça vient moins naturellement pour toi de le dire à d'autres humains.
Exactement, exactement. C'est vraiment genre un effort conscient, c'est comme zéro naturel, en tout cas. Autre premier pas, ou je sais pas si c'est un premier pas, mais première conversation, le DTR.
Quand the Find the Relationship?
Ouais.
Ça, c'est...
Attends, c'est quoi ce...
C'est quand tu définis la relation. DTR, c'est Define the Relationship.
Ok.
En gros, si tu dates quelqu'un depuis quelque temps, quand est-ce que vous décidez que vous êtes copain, copine?
Pour encore revenir à moi, parce que j'ai plein d'exemples avec ma relation actuelle. on se les, je pense encore une fois, c'était plus par écrit, là, mais Et encore une fois, je pense que c'était moi la première qui a demandé à Roy. Après un certain moment, je me rappelle plus après combien de temps exactement, mais moi en tout cas, je savais que j'avais vraiment là des sentiments pour lui. Et donc, je lui ai dit, moi, maintenant, pour moi, je te considère comme mon copain, qu'on est en couple. Et lui, bon, ça m'avait un petit peu refroidi, mais la façon qu'il a répondu, il m'a dit, oui, moi aussi. Mais je veux un peu attendre avant de l'annoncer à ma famille. Mais en même temps, je pense parce qu'on était encore un peu tôt dans la relation.
Oui. Après, oui. Non, définir la relation et l'annoncer, ouais. C'est deux choses différentes c'est aussi. Okay. Je pense.
Ouais.
Puis ça aussi, c'est très personnel. Ça dépend aussi de ta relation avec ton entourage.
C'est vrai, ouais.
Et idéalement, se mettre d'accord avant de l'annoncer.
C'est clair.
Ouais, en tout cas.
Mais ça n'a pas tardé après.
Ouais, ça, j'ai l'impression, autant les autres premiers pas, j'ai l'impression que la tendance est plus à l'attente que ce soit l'homme qui le fasse dans la relation, autant genre, j'ai l'impression que les discussions difficiles ou genre un petit peu chargées émotionnellement et qui sont un peu inconfortables, j'ai l'impression que c'est plus les femmes qui prennent ce travail-là sur leurs épaules. Genre, j'ai pas entendu souvent des copines qui me disaient que ça avait été abordé par leur partenaire.
C'est vrai. Alors que des fois, tous les deux identifient le même problème, mais c'est jamais brought up par le gars. C'est toujours genre la fille qui va initier les conversations difficiles, enfin toujours, la plupart du temps, en tout cas. Les conflits. Qu'est-ce qui doit initier la chicane? En dehors de ça... Je sais pas s'il y a quelqu'un qui doit faire le premier pas pour s'excuser, mettons après genre une dispute. Sachant qu'il n'y a pas toujours genre quelqu'un en tort, là, ça peut être juste des désaccords.
Fizou, t'es très généreuse. C'est toujours lui qui a tort.
Mais j'y pensais justement au truc là qu'on a. C'est les tasses Mr. Right, Mrs. Always Right.
Oui, exact.
Et genre, on a ce discours que comme c'est pour qu'une relation fonctionne, il faut que s'il y a une chicane, le gars. Non, si le gars est en tort, il doit s'excuser. Puis si la femme est en tort, il doit s'excuser.
Happy wife, happy life. Mais ça, genre, j'ai l'impression que il y a comme une connotation négative au fait que je sais pas si c'est les filles qui ont moins tendance à cave dans un conflit ou genre qui ont la confrontation plus facile dans les relations, c'est tout ce qui est, c'est ce que ça sous-entend, le Mr. Right, Mrs. Always Right, ça sous-entend que genre les filles veulent toujours avoir raison dans la relation. En fait, ce qu'il y a derrière ça, c'est que les garçons ont tendance à peut-être à plus souvent genre rendre les armes parce qu'ils veulent éviter le conflit, parce que c'est plus facile.
Ils aiment pas avoir les conversations compliquées ou aller trop loin dans quelque chose qui pourrait vraiment causer une dispute.
Ouais. Ça les fait un peu passer aussi pour des victimes qui vivent sous notre tyrannie. Après,
ils adorent ça, ils adorent ça. En permanence.
Donc, je sais pas si...
Sur le mariage, il y a des chiffres fous qui disent que, je pense qu'après s'être marié, alors que les hommes sont ceux que l'on plaint le plus de se marier, t'as toujours des gars qui te disent, oh, genre, tu te maries, tu seras plus libre et tout, genre, c'est souvent les discours qu'on voit. Et apparemment, c'est plus de 70% des hommes qui sont plus heureux après le mariage qu'avant le mariage. Et pour les femmes, c'est même pas 20%.
Oh.
C'est incroyable. Donc les femmes sont plus heureuses avant le mariage.
Les femmes sont moins heureuses après le mariage que les hommes.
Et qu'est-ce qui explique ça?
Souvent, ça implique que une fois dans le mariage, c'est attendu que les femmes prennent plus de responsabilités au sein du foyer.
Ouais.
Souvent, ça implique que t'aies des enfants, et souvent, c'est la femme qui a plus de responsabilités avec les enfants. Et donc, finalement, elle est moins heureuse après qu'avant, parce que elle se retrouve à avoir plus
de charges.
De charges, et la société attend plus de charges. Attend d'elle qu'elle en prenne plus de toute manière. Alors que les hommes, eux, se retrouvent dans une situation où on s'occupe d'eux, même quand on vit dans une société beaucoup plus progressiste, c'est moins eux qui font à manger, c'est moins eux qui s'occupent de tout ce qui est tâches ménagères, s'occuper des enfants, et donc en fait, eux, ils vivent une vie où on s'occupe d'eux, mais en plus, ils ont l'avantage de pouvoir utiliser leur femme comme prétexte pour ne pas faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire en dehors de leur vie matrimoniale. Je sais pas si vous entendez pas toujours, les gars, ils utilisent toujours « Ah, ma copine, elle veut pas trop que je sorte ce soir, ma femme veut pas trop que je sorte ce soir et tout. » Alors que t'entendras jamais une femme dire « Mon mari veut pas que je sorte. »
C'est vrai.
Ouais, genre, tu vas dire, j'ai des choses à faire ce soir, faut que je m'occupe de quelque chose, tu vas jamais, genre, dire, c'est mon mari qui veut pas que je sois. Alors que les hommes, tu les entends tout le temps comme si leur femme, comme tu dis, c'est elle tyrante. Est
mais c'est comme les enfants qui disent, mes parents veulent pas que je vienne dormir chez toi.
Alors que c'est eux qui veulent pas venir.
C'est trop marrant.
J'adore quand tu mets ça.
Faut qu'ils arrêtent de mettre la cause sur leur femme, alors c'est même pas vrai.
Ça fait beaucoup de sens, ces stats, finalement.
C'est fou.
Bon, avant de parler de un-dating, je pense, je sais pas si on avait passé toutes les étapes d'une relation, mais...
On a bien avancé dans la relation.
On a bien avancé, on est loin dans la relation. Mais quand un premier pas est franchi, est-ce que c'est possible de retourner en arrière, genre, ouais, ou de ralentir? Ça aussi, c'est une partie un peu tricky, genre, est-ce que... Bon, après un premier bisou, tu peux pas... Tu peux, mais genre, est-ce que tu dois accepter toutes les autres...
Bah, ça devient difficile, ouais, de ralentir le...
Ouais. Ou après un « je t'aime », est-ce que tu peux t'arrêter tout à coup de le dire, genre, indéfiniment, je t'aime.
De ralentir, je pense que c'est toujours possible de le manœuvrer, de revenir dessus.
Après,
ça, ouais, c'est plus difficile. En fait, parce que revenir dessus, ça veut dire que tu veux pas vraiment être avec l'autre personne ou que tu l'aimes pas, parce que même si tu l'as dit, en fait, finalement, tu te rends compte que c'est pas ce que tu ressens.
Mais très sincèrement, ça veut rien dire. Même si vous êtes fait un premier bisou... moi je me rappelle avant que je sois maintenant avec Roy, j'avais un petit peu daté via les applications. Je me rappelle, j'avais été avec en date avec quelqu'un. Je pense qu'on avait été une première fois. Je me rappelle plus, je pense que la première fois on s'était pas embrassé, on avait réété en date une deuxième fois. À la fin du date, on savait que prend qu'on on s'est pas dit, mais on savait à l'intérieur, je pense, qu'on allait pas se revoir, mais on s'est quand même embrassé. À la fin.
C'est inattendu.
Et vous êtes revenus dessus,
sans problème.
Sans problème.
Et après, ben, lui, il m'a écrit, et moi, j'ai eu la même, le même avis que lui, finalement, que, ouais.
Non, mais ça veut dire que si tu veux revenir dessus, ça veut dire que c'est terminé. Comment ouais, est-ce que tu manœuvres si tu penses que t'es allé trop loin dans tes déclarations, dans ton avancement, mais tu veux quand même continuer à fréquenter la personne.
Ouais.
C'est...
Même la conversation, si tu veux avoir cette conversation avec quelqu'un et dire, oh, genre, je veux qu'on ralentisse ou quoi, ça peut être super mal pris. Et ça peut mettre fin à la relation. Tu peux vouloir un break et finir avec un break-up alors que c'est pas ce que tu cherchais nécessairement, mais...
Mais je pense que ça dépend où t'es rendu aussi, au stade du dating, avec la personne. Ça influence quand même.
Ouais, ça a moins de signification.
Si c'est juste après une, deux dates, que après déjà presque 10 dates ou je sais pas comment.
Le dernier pas.
Oups, c'est la fin de cette relation, les amis.
C'est le break-up. À votre avis, qui le fait le plus souvent?
Est-ce qu'il y a des stats là-dessus?
Ouais, j'ai trouvé des stats.
Oh, waouh! Alors là, je suis vraiment curieuse de savoir.
Ouais.
Moi, je pensais que ça serait beaucoup plus flagrant, genre comme beaucoup, un écart beaucoup plus gros, mais c'est 55 à 60% des femmes qui initient les break-ups.
Ok.
55 à 65?
55 à 60
okay.
qui initient les
break-ups. Donc c'est la majorité.
Ouais, c'est quand même la majorité des femmes. Bon, en même temps, si elles commencent les conversations difficiles, elles peuvent les finir.
À cause de ça, je veux bien le croire. En tout cas, moi, dans... quasiment toutes les relations où je... Même quand je me suis fait larguer, c'est moi qui me suis larguée moi-même. Donc...
Mais franchement, moi aussi. Il y a beaucoup de gens qui peuvent pas avoir les conversations difficiles, qui préfèrent laisser mariner la situation.
Tout à fait.
Et vivre leur vie, genre, on the side.
Mais moi, j'ai vécu une situation vraiment comme ça avec mon ex, justement, il y a 2 ans. Il était pas capable d'aborder, justement, une conversation qui était primordiale. Puis il a attendu à la dernière minute pour finalement avouer que... Parce qu'en fait, il allait déménager dans un autre pays, puis finalement, il avait pas la vision de notre couple, en fait, qu'on allait
continuer.
Et malgré que moi, j'ai essayé, je sentais, vers la fin, je le sentais, mais il a jamais été capable, il m'a comme fait attendre jusqu'à la dernière minute pour finalement me dire...
Mais en plus, dans ton cas, il partait à l'étranger, donc c'était trop facile, genre. C'est hyper lâche, en fait, de comme juste dire, de toute façon, je déménage, donc. Si elle pense rester en relation, tant pis pour elle, c'est genre, mais moi, je dis rien.
C'est fou
de pas le faire. Moi aussi, ça m'est arrivé 2 fois de devoir sign out moi-même. Alors que comme, genre, c'était clair, quoi, juste parce que
ça venait
personne...
de l'autre.
Ouais, mais l'autre personne n'était pas foutue de le faire, donc bon. Mais en fait, ça explique juste que les filles sont plus conscientes, généralement, de leurs besoins, leurs limites, dans une relation, qu'elles sont mieux équipées pour, genre, identifier les situations qui leur conviennent pas, et qu'elles sont plus ouvertes à leurs émotions, et genre, plus à même de discuter de leurs problèmes, tout ça, quand...
Et je pense que nous aussi, les femmes ont une plus forte intuition aussi sur les choses.
Ou tu le sens.
Ouais, ouais.
Si c'est la fin ou quoi, tu le sais.
C'est l'intuition.
Ouais, alors que les hommes vont plus ignorer, généralement, un problème, au lieu de l'aborder.
Ils vont le mettre sur le tapis.
C'est ça. Et les raisons des ruptures aussi étaient différentes selon si t'es un homme ou une femme. Genre, les hommes pouvaient rompre avec leur partenaire en raison de désaccords sur des questions comme les finances. Ou des divergences d'opinion, ouais, ou
les
des
finances,
ou des objectifs de vie.
Finances,
je sais pas, genre c'est comme.
Mais je suis pas
égale. Je suis pas étonnée une seule seconde.
En tant que quelqu'un qui travaille en finance, est-ce que tu witnesses beaucoup de ruptures
du mais honnêtement, les questions d'argent, c'est une des raisons principales pourquoi les gens se séparent.
C'est fou, hein.
Parce que
les difficultés d'argent, en fait.
Découvrir des choses sur l'autre personne, les dettes que tu connais pas, les problèmes de carte de crédit que tu connais pas.
Parfois, le partage des charges.
Exact. Ouais. T'es pas d'accord sur comment est-ce qu'on répartit le poids financier. Il y a aussi... ça crée beaucoup de tension de savoir qui paye quoi, comment est-ce que ça va être réparti. Mmh. Et aussi, finalement, tu découvres les habitudes financières de l'autre personne, si elle est un peu plus dépensière que ce que tu pensais avant d'habiter avec et tout ça. Enfin, je suis pas étonnée. Et les garçons sont toujours beaucoup... Enfin, ont été élevés, en fait, souvent, pour être plus terre-à-terre financièrement.
Pour y accorder plus d'importance.
Oui, exactement. Alors que je pense que nous, on a toujours... la société nous encourage à être plus flexible en général, mais...
Ou à valoriser d'autres aspects.
Oui, tout à fait.
Puis moi, je pense que c'est important aussi d'en discuter avant qu'il y a vraiment un engagement, un mariage sur la question de l'argent. C'est super important d'être un peu sur la même longueur d'onde, justement en termes... Si toi, t'es une personne plus du type à épargner, t'espères que quand même l'autre soit aussi un peu de ton type, parce que si t'es avec une personne qui va juste se endetter, puis toi, t'as vraiment pas cette approche ou cette vision, je pense que ça va t'apporter beaucoup de frustration.
C'est vrai que c'est important.
C'est important d'en parler aussi. Ouais. Et justement, moi, dans ma relation actuelle, on en a un petit peu parlé. Tu sais, moi, je lui ai fait savoir que moi, c'était important pour moi de ne pas être endettée.
C'est important d'être sur la même longueur d'onde. Ça m'a fait penser à une émission. Je sais pas si vous avez vu l'émission des radins de l'extrême ou je sais plus comment ça s'appelle. C'est genre des gens hyper radins, mais souvent c'est juste...
Ils s'attirent.
Ouais, souvent c'est le couple qui est hyper radin ou genre quelqu'un qui l'était plus que l'autre, mais l'autre a été embarqué. Suivi. Voilà. Et ça toute la famille devient comme ça, mais radin de l'extrême, c'est-à-dire que comme ils ont une ampoule dans la maison et ils la changent d'endroit selon où ils vont aller. Wow. C'est vraiment extrême. Ils ont un... Tu sais, le papier toilette, il faut que tu utilises, je sais pas, genre un morceau...
Qui t'a gardé tes façades.
Donc ouais, les finances, c'est important pour... En tout cas, pour les hommes plus que les femmes, apparemment, ça peut créer plus de tensions, disons.
Et pour les femmes, les causes de rupture,
c'était... Pour les femmes, les causes de rupture, c'était un manque de connexion émotionnelle, des problèmes de communication ou l'infidélité. Il y avait des recherches qui suggéraient que les hommes sont plus susceptibles de rompre si leur partenaire réussit mieux dans sa carrière et dans sa vie familiale. Ils peuvent avoir genre du ressentiment ou je sais pas trop quoi, et que ça pouvait être comme un facteur prédictif de rupture.
Donc même quand les finances vont trop bien, ça c'est une raison de rupture. You can't win.
c'est vraiment.
Mais ça, j'espère que ça va un peu changer avec justement l'évolution des mentalités, que c'est maintenant la femme peut aussi bien réussir qu'un homme.
Devrait en tout cas avoir autant de possibilités.
Ouais, il faut que les hommes perçoivent ça comme quelque chose de tout à fait normal.
Ouais, dont ils peuvent être fiers aussi. Il y a pas de compétition.
Ouais, parce que ça c'est un peu un aspect justement plus machiste, hein, si on veut plus.
Ouais, ils sont menacés dans leur statut.
Ouais.
Ils ont un sentiment d'émasculation.
Ouais.
Mais
Le copain de Taylor Swift actuel qui apparemment il y a quelques années a fait une déclaration, il s'appelle Matty Healy, fait une déclaration en disant que genre il pourrait jamais sortir avec Taylor Swift parce qu'il se sentirait émasculé parce qu'elle est trop célèbre.
Maintenant, il sort avec elle. Elle a trop d'argent.
Mais c'est vrai, j'avais lu que sur les applications de rencontres, les filles qui avaient des emplois plus élevés avaient du mal à scorer.
Ouais. C'est vrai. Ouais. Et les femmes plus diplômées aussi.
Ouais,
c'est vrai.
Mais aussi parce que les femmes diplômées, elles ont aussi des critères peut-être plus hauts aussi chez la personne avec qui elles
vont. Peut-être, ouais.
C'est sûr qu'elles veulent
femmes célibataires de leur de même niveau. Plus de 35 ans sont la catégorie de population la plus heureuse. Peut-être que finalement c'est pas si mal,
mais... ouais, ça plus le petit 20% de femmes mariées qui sont heureuses, c'est vrai que ça met les choses en perspective.
Mais aussi, à côté des finances, il y avait le succès dans sa vie familiale. C'est vrai que j'ai l'impression que si t'es une femme qui t'entend bien avec tu t'entends bien avec ton père, bien entourée, genre ta famille est saine, t'as des relations saine finalement. Et si le gars, c'est pas son cas, on dirait qu'il y a quand même un espèce de déséquilibre qui se crée, on dirait qu'on n'aime pas de la même façon, on reçoit pas de la même façon les choses, ou des fois il y a comme des sentiments de jalousie ou je sais pas trop quoi, c'est hyper toxique aussi là, des fois de la part de la personne qui n'a pas connu le même milieu familial, mais ça existe.
Est-ce que ça peut être une des raisons de rupture aussi
pour les hommes? Oui.
Ah oui.
Wow. Ouais. Est-ce que tu penses que les hommes aussi, il y en a beaucoup qui cherchent des filles qui ont des daddy issues aussi? Donc peut-être que que t'en aies pas, c'est un red flag
pour eux. C'est ça. Tu vois, l'humoriste Eliza, elle parlait de ça justement parce que elle, jusqu'à ses 35 ans, elle était célibataire. Je pense qu'elle s'est mariée après, mais elle disait comme, tu sais, les gars, ils sont effrayés parce que t'as un PhD et genre, t'as des bonnes relations avec ton père.
Tu as fait leur red flag, s'il
te plaît. C'est incroyable quand même.
Ouais, c'est vraiment fou. Les femmes, on avait dit, elles sont plus inclines à prendre l'initiative d'une séparation, surtout si leur partenaire trahit la confiance. Par exemple, en la trompant.
Et c'est vrai qu'on est prêt, j'ai l'impression en général, à accepter plus de choses tant qu'on est. On se sent émotionnellement impliqué dans la relation, qu'on se sent aimé et tout. Je pense qu'on est prêt à passer l'éponge sur
des choses plus
plus de choses
très matérielles ou
c'est vrai.
Même si c'est vrai que je pense qu'il y a des stats là-dessus, que les femmes cherchent toujours aussi des hommes qui ont des carrières etc. Mais je pense qu'une fois qu'on a passé le step de
on est ensemble, on est
prêt à accepter plus de choses.
C'est vrai. Au Maroc, j'ai vu beaucoup d'exemples de femmes qui acceptent n'importe quel homme. C'est elles qui vont travailler, c'est elles qui vont, alors que lui fout pas grand chose. Et moi, ça m'a toujours révoltée. J'étais comme, pourquoi elle les fout pas dehors?
Elles sont mieux d'être seules.
Mais au Maroc, c'est difficile d'être une femme seule qui vit seule aussi.
Parce que c'est mal vu.
C'est pas si commun que ça. En fait, il y a beaucoup de femmes qui vont être chez leurs parents avant d'être mariée.
Qu'elles pourront pas quitter la maison.
Donc je pense que c'est aussi, ça joue aussi pour t'encourager à te mettre en relation et à te marier assez vite. Donc,
pour un contexte un peu différent.
Jour famille.
Des fois, tu te rajoutes un fardeau.
Et en fait, oui.
On avait des fun stats.
Oh,
à vous partager avec Lilou. Alors, un sondage par Delig, qui est une dating app qui fonctionne par référence, comme Raya. Je sais pas si vous connaissez ce genre de dating apps. C'est genre, je sais pas qui rentre en premier dans ça, mais il faut avoir une référence de quelqu'un pour pouvoir t'inscrire. C'est genre vraiment pour...
C'est exclusif.
Ouais. Ce sondage-là montre que les femmes qui font le premier pas sont plus chanceuses, entre guillemets, ont des relations plus à succès. Et elles augmentent comme un peu plus leur chance de trouver la bonne personne en cherchant elles-mêmes et en prenant les initiatives elles-mêmes. Par contre, les hommes qui ont fait le first move sont plus susceptibles de dire qu'ils sont heureux dans leur relation que les femmes qui ont fait le first move. Donc genre, en gros, c'est comme si les deux étaient contents quand c'est l'homme qui faisait le premier pas.
Ah, ok. Intéressant.
Et puis il y a une autre étude qui était publiée par Psychology Today.
Ah oui, c'était rigolo comme ça. Ça disait, parmi les jeunes adultes mariés, ceux qui ont rencontré leur moitié à l'église ou dans d'autres activités religieuses sont les plus heureux.
Je pense les plus heureux, c'était ceux qui se sont rencontrés dans des endroits ou des activités religieuses. Les moins heureux, c'était ceux qui se sont rencontrés dans des bars ou des restaurants.
Oh, comparer les lieux de rencontre selon donc le
satisfaction de la
leur satisfaction dans la relation.
Je vois un peu la logique parce que tu sais les gens qui vont se rencontrer dans un milieu par exemple religieux, ben ils vont sûrement partager les mêmes croyances
ou les mêmes attentes.
Ouais, probablement c'est pour ça.
Comme c'est les mêmes valeurs, les mêmes attentes.
Ouais. Dans un autre sondage, à la question en matière de séduction, est-ce que l'homme est-ce que c'est à l'homme de faire le premier pas ? 29% des hommes ont répondu oui, contre 42% des femmes.
Ah, donc les hommes sont moins convaincus, eux, que c'est à eux de faire le premier pas.
Ouais.
Moi, j'en avais vu une autre, une étude de Match, qui disait que 95% des hommes préféraient quand c'était les femmes qui faisaient le premier pas. 95%, ça, c'est quasiment 100%.
Wow. Ouais, donc quoi, en fait, bah, comme on parlait d'insécurité et tout, ils ont peut-être les mêmes que nous.
Ouais, ouais, exact.
Eux aussi. Ouais. Ah,
c'est
beau.
Ça, c'est chez les moins de 35 ans. Chez les plus de 35 ans, c'est encore moins d'hommes qui pensaient que c'était à eux de faire le premier pas. 27% des hommes qui pensent que...
Plus âgés, ils pensent que c'est moins à eux de faire le premier pas.
Oui. Contre 40% des fois.
En fait, ils ont la flemme.
Ils ont la flemme.
Ils sont fatigués au bout d'un moment.
Ils l'ont trop fait. Bon, ben voilà. Il y avait donc Elsa, tu as bien fait. C'est vraiment dans les attentes, l'attente des hommes.
Ouais.
Ma conclusion, c'était que genre, ça prend deux personnes. It takes two to tango, genre. Ça doit vraiment être mutuel et selon le feeling et genre, pas forcément se poser toujours la question de qui doit faire quoi.
Laisser les choses aller, puis le plus naturellement possible.
Ouais,
en plus, vrai. Comme tu dis, il y a une multitude de formes de premier pas, donc in fine, c'est pas une compétition. C'est parce que c'est lui qui a fait le premier pas, tu peux pas faire toi aussi plein d'autres formes de premier pas.
Alors moi, je pense qu'on a beaucoup parlé genre de la charge mentale qui était souvent sur le dos des filles. Donc, au final, c'est un travail à se partager. Une relation, c'est pas un sprint, là, c'est un marathon. Donc, c'est correct de genre prendre des tours à être celui qui initie un petit peu plus à des moments différents de la relation.
C'est un travail d'équipe. Comme ça montre ben, autant l'intérêt de l'un de l'autre.
Hein. Ouais, pour je vais re-bring up Eliza, mon humoriste préféré. Mais elle disait en gros, genre, ouais, les hommes qui se plaignent de devoir faire le premier pas dans des contextes, tu sais, sociaux, est-ce que genre, ils doivent venir t'aborder, mais toi, tu t'es mise en bombe, genre, pour ça.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est ça, un premier pas.
Oui,
le premier à se mettre en bombe.
Donc, qu'est-ce qu'il en reste à faire finalement ?
C'est clair.
Je vais revenir juste sur la question du mariage. Et qui doit demander en mariage ? Parce que hier, j'ai eu une discussion avec Célia là-dessus.
Ah.
Et qui est aussi concernée.
Et
puis elle, selon elle, c'est la personne qui a, en gros, le moins été forward dans la relation au début. Qui devrait le faire parce que elle dit que on évolue à deux vitesses dans une relation, qu'il y a toujours une personne qui est plus into it que l'autre, et qu'elle va plus être démonstrative, plus genre chase après l'autre personne. Et donc ce serait à l'autre personne qui a été chase tout le long de faire la demande, non seulement parce que c'est entre guillemets la plus lente, donc tu lui mets pas une pression en lui disant genre je veux me marier maintenant, donc elle va plus à son rythme, et aussi elle confirme à l'autre personne qu'elle aussi, elle est dedans. Into l'autre personne aussi, finalement.
C'est un point de vue intéressant. En tout cas, très rationnel. Mais d'un autre côté, j'oserais espérer que, genre, dans une relation qui va se rapprocher de step de, genre, un mariage, ou toute autre relation qui devient suffisamment sérieuse, et à un moment donné, il faut espérer qu'il n'y ait pas vraiment de déséquilibre en termes de qui chase l'autre. Ça devrait s'équilibrer avant d'être rendu à une demande en mariage, je pense.
On peut conclure là-dessus, finalement. Quoi qu'il arrive, si t'es dans une relation à deux, juste assure-toi que tu fais qu'il y ait un équilibre, voilà.
Et vous, les filles, comment sont passés vos premiers pas en podcasting?
Wow.
Je pense que ça va être